Avec la paracha Béhar, qui est souvent lue en même temps que la suivante, qui est la dernière du livre Vayikra, eh bien, avec cette paracha Béhar, un sujet clé de la Torah se clôt. Il s'agit du développement et du mode d'emploi d'un des versets de la paracha Yitro, qui nous disait « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres ». Et une nation sainte. Depuis, en effet, le livre de Shemot, les différentes parachas jusqu'à cette fin du livre Vayikra, eh bien, on va trouver le fil conducteur clair que la Torah traite de la sainteté des enfants d'Israël. Et bien entendu, ce n'est pas un état évident, c'est un état qui s'acquiert par un certain effort, par une certaine ligne de conduite, par toute une série d'instructions qui nous sont justement données depuis la paracha Terouma jusqu'à maintenant à cette paracha Béhar et à la suivante qui clôt le livre de Vayikra. Comment être un royaume de prêtres et une nation sainte? Eh bien, en respectant toute une série d'impératifs de sainteté dans les dimensions de l'espace, de l'âme et du temps. Tous les aspects de l'existence sont en effet englobés dans ce programme. Et nous avons dans le Sefer Yetzirah, par exemple, une indication, un enseignement de ce livre, qui est un des plus anciens ouvrages kabbalistiques connus, que l'être se déploie selon trois dimensions. Bon, l'âme, c'est-à-dire le monde, l'espace, mais également Shana, c'est-à-dire l'année, la dimension du temps, et également Nefesh, la dimension de l'énergie spirituelle qui anime la création. Le programme de sainteté qui est prescrit aux enfants d'Israël va donc ainsi recouvrir ces trois dimensions. Et nous avons dans cette paracha un verset que l'on peut mettre en relation avec ce sujet, puisqu'il est dit: Et tu compteras pour toi sept Shabbats d'année, sept fois 7 ans, etc. On sait que les signes musicaux présentent une grande importance pour la bonne compréhension du texte. Ainsi, tous les maîtres l'ont dit et répété dans le Midrash, dans le Talmud, dans le Zohar, dans la tradition rabbinique. Ainsi, par exemple, Rabbi Abraham ibn Ezra écrit au XIIe siècle: Toute explication qui irait à l'encontre des signes musicaux sera refusée et infructueuse. De la même manière, on a Rabbi Sharia Bakish qui a pu souligner dans une des indications manuscrites qui résultent de ses enseignements. Il a souligné le rôle des théramim dans l'exégèse biblique. Et on nous dit ceci: l'explication est selon l'accent de cantillation. Ou ailleurs, il explique: le taham indique le sens. Donc, tout fait sens dans la Torah, et en particulier les théramim, les signes de cantillation. Or, dans le verset que je viens de citer, en traduction, le signe de cantillation Rabia met l'accent sur le mot lecha qui signifie pour toi. Et donc, quand on lit en hébreu, on a ve safarta lecha, tu compteras pour toi. Et ce signe est un signe tout à fait remarquable, lecha. Ainsi, ce signe nous montre l'importance du mot lecha. On nous demande pas seulement compte sept Shabbats d'année, 7 fois 7 ans, mais les jours de ces 7 Shabbats d'année te feront 49 ans. Eh bien, là, on a le mot lecha qui signifie pour toi. Cette paracha aborde aussi la question du compte du Homer. Et on est tenté de trouver une allusion à l'importance du compte du Homer pour celui qui compte, précisément, c'est-à-dire l'écha pour toi, parce que le travail sur soi, un travail intérieur en vue du perfectionnement individuel, moral, psychologique, spirituel. C'est tout un travail intérieur qui concerne chacun individuellement afin qu'il compte, qu'il examine, qu'il juge et se souvienne, comme nous dit le Talmud dans Ménachot. Eh bien, c'est une période de développement personnel, si on veut prendre l'expression du Rav professeur Dufour, qui était un professeur de psychologie et un psychanalyste, qui donc nous disait que cette période de développement personnel impose à chacun de travailler sur ses comportements. La libération de ce que représentait Mitzrayim, c'est-à-dire Mitzrayim, l'angoisse, l'esclave volontaire, la perte de l'identité, l'assimilation à d'autres, l'esclavage qui n'était pas volontaire du temps de l'esclavage en Égypte. Mais aujourd'hui, on a des gens qui se rendent esclaves, plus ou moins volontairement, pour une addiction au téléphone, par exemple, une question entre mille, un sujet entre mille, ou une addiction à beaucoup plus d'argent que nécessaire pour vivre. Ces forces négatives se ravivent et augmentent, d'où cette nécessité que nous enseignent nos sages, qui ont prescrit le conte du Homer et une sorte de technique de réalisation de ce développement personnel. C'est un processus de libération en quelque sorte, de manière à ce que l'être humain puisse obtenir une bonne réception de la Torah. Chaque dimension des midot individuelles, des tendances, doit être travaillée. Et c'est tout ce travail qui est fait pendant le conte du Homer. Autre enseignement à ce sujet, c'est celui que je tire du rabbin de l'Est algérien, Rabbi Abraham Zerbib, qui a écrit: l'ordre est donné ici de compter les années de Shemitah et du Yovel. C'était à cela que renvoyait le verset que j'ai écrit au début. Mais l'enseignement moral de ces versets s'adresse à chacun pour lui demander de compter les années de sa croissance jusqu'à la cinquantaine. Et ceci vient d'un ouvrage qui s'appelle Pachad Yitzhak, qui a été publié donc dans un centre d'études sur le judaïsme algérien, et il explique qu'il faut éviter tout gaspillage d'une denrée rare, le temps. Car le temps qui nous est donné, entre la naissance et la mort, après 120 ans, est un temps malgré tout mesuré, même 120 ans, c'est mesuré. Même si la vie humaine peut s'étendre sur de très longs jours, bien le temps imparti à chacun reste mesuré. Et par rapport à l'ampleur des tâches qu'il nous est demandé d'accomplir pour l'étude de la Torah en particulier, eh bien, ce temps est extrêmement court. Car en effet, l'étude de la Torah, c'est un domaine absolument gigantesque. Il faudrait, pour bien faire, étudier la lecture totale du Sefer Torah, la comprendre, chanter ce texte, savoir le comprendre dans tous les niveaux du Pardès. Mais il faut étudier aussi les commentaires, maîtriser tous les niveaux du sens, accorder une place centrale à l'étude de la Halakha, etc. La Mishnah, la Tosefta, la Gemara, le Talmud de Babel et de Yerushalmi et de Jérusalem, les Midrashim, les ouvrages et commentaires des Rishonim, des Rabbins Aharonim jusqu'à aujourd'hui. Bref, les plus savants et les plus saints auront même accès à des études de Sod et de la Kabbalah. Mais ce programme, absolument gigantesque, peut décourager les simples fidèles quand ils se rendent compte de l'immensité des choses à aborder, à lire, à retenir, à comprendre, à enseigner. Parce qu'il faut aussi s'occuper de sa famille, il faut aller à l'école, il faut aller à l'atelier, il faut aller au bureau, etc. Donc, on peut légitimement être découragé. Mais heureusement, on a l'enseignement de Rabbi Tarfoun qui nous a expliqué ceci: Ayom Katsar, le jour est court, et les tâches à faire sont nombreuses. Et les ouvriers, ils sont paresseux. Quant au salaire, il est élevé, et le maître de maison presse. C'est ce qui nous explique dans les Pirkei Avot, dans le traité des Pères. Ainsi donc, prendre conscience de la valeur du temps, du fait de la brièveté de la vie humaine, c'est une reconnaissance tout à fait fondamentale. Mais heureusement, Rabbi Fartafoun poursuivait, tu n'es pas obligé de terminer le travail, parce que certes, le programme d'études est gigantesque. Il faut le commencer, mais il n'y a pas obligation d'achèvement du travail. Et d'ailleurs, un autre Tana nous explique quelque chose d'extrêmement positif. Il dit, les foum tsahara agra, c'est-à-dire la rétribution, elle est faite, la rétribution par Hachem de l'étude, par exemple, elle est faite en fonction de l'effort fourni. Et selon l'effort fourni vient la rétribution. Cela veut dire que l'on n'est pas jugé sur le rendement, sur la productivité de l'étude, à la limite même sur avoir tout retenu. On est jugé sur l'effort déployé. Quelqu'un qui se met péniblement à lire trois lignes d'hébreu, par exemple une Mishnah, mais il a eu tellement de mal, il sait pas trop bien lire, il a fait un effort démesuré, il a mis un quart d'heure pour lire ces trois lignes, eh bien, ça lui sera compté peut-être autant que celui qui aura très rapidement, très facilement lu tout un chapitre du livre en question de la Mishnah. Donc, Rabbi Tarfoun nous a donc dit une chose importante, que la rétribution est faite en fonction de l'effort fourni, et il ajoute, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. Voilà donc un enseignement réaliste, car comment espérer finir un travail aussi considérable en matière de Torah, car même en y travaillant tous les jours et toutes les nuits d'une vie, allant jusqu'à 120 ans, même en optimisant l'utilisation de chacune des années, des minutes, des secondes même, eh bien, il n'est pas sûr qu'on arrive à boucler le programme. Et c'est pourquoi ce que nous dit Rabbi Tarfoun est fondamental. On n'est pas libre de s'y soustraire, mais en même temps, on doit commencer le travail, même si on n'est pas obligé de le terminer. Donc on a là un enseignement réaliste et un enseignement qui nous indique combien la Torah est infinie, combien son sens est inépuisable à l'image de l'infini divin. Mais les 120 ans, ce n'est pas une limite. Après ce temps, se prolongera dans le monde futur l'étude, comme l'enseigne notre tradition, car en effet, la tradition affirme que si l'on n'a pas étudié en ce monde, on s'ennuierait fort dans le monde futur. Car seulement ce qui a été étudié en ce monde, même à un niveau élémentaire, même si on n'a rien compris, on a avancé en faisant des sons, des lettres hébraïques par exemple, ou bien des traductions, eh bien tout cela, tout ce que l'on a abordé pourra être approfondi. Eh bien, que Dieu donne à tous une bonne santé, une longue vie riche en mérites. Amen.